Chapitre 8. Le 13 août 2016, 14h.
C'est son écriture !
Clotilde attendait une réponse. N'importe laquelle. En vain. Les lèvres de Franck étaient occupées à téter le goulot de plastique de la bouteille d'Oretsa, 1 litre, à peu près autant que ce qu'il venait de transpirer par tous les pores de sa peau. Il se contenta finalement d'une vidange aux 3/4 et versa le reste de l'eau sur son torse nu. Franck avait couru jusqu'au sémaphore de Caballo, 9 km aller-retour. Pas mal pour une reprise, surtout sous 30 degrés. Il prit le temps d'étendre son t-shirt trempé de sueur.
« Comment peux-tu en être certaine, Clo ? Je le sais, c'est tout !»
Clotilde s'était adossée au tronc tordu de l'olivier. Elle tenait toujours l'enveloppe à la main, les yeux rivés sur son nom. Clotilde Idrissi, bungalow C29, camping des Eupproctes. Elle n'avait aucune envie de parler à Franck des cartes postales de son enfance envoyées par sa mère, qu'elle relisait parfois, des carnets de correspondance annotés et signés qu'elle avait conservés depuis le collège, des photos d'avant avec des mots écrits derrière, de ces fantômes qui ne laissent que des griffes. Elle se contenta de murmurer entre ses dents. « Ma vie tout entière est une chambre noire. Une grande, belle chambre noire. » Franck s'avança à 1 mètre d'elle, le torse ruisselant. Le soleil faisait briller ses cheveux blonds et ras. Tout opposait Franck à la nuit, à l'obscurité, à l'ombre. Il y a des années, c'est ce qu'elle avait tant aimé chez lui, qu'il la ramène vers la lumière. Il tira une chaise de plastique et s'assit face à elle, yeux dans les yeux.
« Ok, Clou, ok. Tu m'avais raconté, j'ai rien oublié. Tu étais fan de cette actrice quand t'avais 15 ans, tu t'habillais comme elle en hérisson gothique, tu te comportais comme la pire des ingrates avec tes parents. Tu m'as fait regarder ce film Beetlejuice quand on s'est rencontrés, tu te souviens ? Tu avais arrêté l'image sur cette phrase balancée par cet ado. « Ma vie est une chambre noire. » Tu m'avais même souri en me disant qu'on la repeindrait tous les deux de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel.
Franck se souvenait de ça ?
Je crois que ta Winona Ryder a dû rester bloquée ainsi en statue sur son écran près de 2 heures à nous regarder faire l'amour sur le canapé.
De ça surtout.
« Ok, Clo, celui ou celle qui t'a envoyé cette lettre te fait une sale blague. »
Une blague ?
Franck avait bien dit « une blague ».
Clotilde relut les mots qui la troublaient le plus. « Demain, lorsque tu seras à la bergerie d'Arcanou, chez Cassanou et Elisabetta, tiens-toi quelques minutes sous le chêne vert, avant qu'il fasse nuit, pour que je puisse te voir. Je te reconnaîtrai, j'espère. J'aimerais bien que ta fille soit là, elle aussi. Je ne te demande rien d'autre, surtout rien d'autre. »
Cette visite chez ses grands-parents paternels était prévue le lendemain soir.
Franck s'obstinait à vouloir expliquer l'irrationnel.
« Oui, Clo, un type te fait une sale blague. Je n'ai aucune idée de qui il est, ni de pourquoi il l'a fait, mais...
Mais... » Cette fois, Franck posa une main sur un genou de Clotilde avant de la fixer à nouveau. Le complice avait déjà disparu. C'était à nouveau le prêcheur qui parlait. Le donneur de leçons avec son chapelet de morale et ses arguments imparables. Un prof patient face à son élève borné. Elle ne supportait plus cette suffisance.
Ok, Clo, je vais m'y prendre autrement.
Le soir de l'accident, le 23 août 1989, tu en es certaine, vous étiez tous les quatre dans la voiture, toi, ton père, ta mère et Nicolas.
Oui, bien entendu.
Personne n'a pu sauter avant que la Fuego bascule dans le précipice. Clotilde repassa devant ses yeux les images gravées, à vif, depuis le drame. La Fuego lancée comme une bombe dans la ligne droite. Le virage serré. Son père qui ne braque pas.
« Non, personne ! Impossible !»
Franck alla droit au but. C'était sa force. Il ne croyait qu'en 2 qualités, rationalité et efficacité. « Clo, tu es absolument certaine que ton père... « Ta mère et ton frère sont morts dans cet accident. Tous les trois. » Pour une fois dans sa tête, Clotilde le remercia pour son absence de tact. Oui, elle était absolument certaine. Les corps déchiquetés dans la carcasse de la Fuego la hantaient depuis près de 30 ans. Les corps de ses parents, broyés sous les mâchoires d'acier, le goût du sang mêlé à l'odeur d'essence, Les secours qui arrivent sur les lieux de l'accident et identifient les trois cadavres, transportés à la morgue et rangés dans des tiroirs, pour que la famille anéantie leur rende une dernière visite. L'enquête sur l'accident. L'enterrement. Le temps qui pourrit tout. Rien ne revit, ne refleurit. Jamais. Oui, ils sont morts tous les trois, il n'y a aucun doute. Frank posa une deuxième main sur un deuxième genou et se pencha vers elle. Ok, Claude. Alors l'affaire est close. Un petit plaisantin te fait une farce pas drôle, un ancien amoureux ou un corse jaloux, peu importe. Mais va pas te mettre dans la tête autre chose. Comment ça, autre chose ? Clotilde se sentait hypocrite, fragile, faux-cul, au point de se mentir à elle-même. Parfois, la franchise de Frank simplifiait les choses. Te mettre dans la tête que ta mère pourrait être vivante, et que c'est elle qui t'a écrit. Et pan. La peau laiteuse de Clotilde, luisante de crème solaire, rougissait pourtant. Bien entendu, Frank. Bien entendu. Qu'est-ce que tu vas imaginer ? Bien entendu, Frank, s'entendit-elle affirmer. Ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Faux cul, hypocrite, menteuse. Frank évita d'insister. Il avait gagné. La voix de la raison s'imposait, pas besoin d'en rajouter. Alors oublie, Claude. C'est toi qui as voulu revenir en Corse. Je t'ai suivi. Alors maintenant oublie et profite des vacances. Oui, Frank. Bien entendu, Frank. Tu as raison, Frank. Merci, Frank. Dans la minute qui suivit, Frank proposa une virée à Calvi. La cité citadelle était à moins de 5 km, moins de 10 minutes de route, si on ne se retrouvait pas coincé derrière un troupeau d'ânes ou de camping-cars. Frank partit enfiler une chemise propre. Valou battait des mains rien qu'à entendre le mot Calvi, synonyme de rue commerçante aux touristes agglutinés, de port de plaisance aux yachts alignés, de plage aux serviettes collées. En observant Valou filer dans le bungalow pour enfiler une robe serrée, se recoiffer pour dégager son front, sa nuque et ses épaules cuivrées, se rechausser de fines sandales de cuir tressé argenté, rayonnantes à l'idée de retrouver la civilisation. Et pas n'importe quelle civilisation, cette civilisation bronzée et friquée qui la fascinait. Clotilde ne put s'empêcher de se demander ce qui avait cloché entre elles. Valentine et elle avaient été complices jusqu'à ses 10 ans. Une petite fille princesse délire et sa maman folle dingue. Exactement comme elle se l'était promis. Des jeux idiots, des fous rires, des secrets partagés. Elle s'était jurée de ne jamais devenir une maman aigrie, une maman casse-rêve, une maman en noir et blanc. Et tout avait foiré sans même qu'elle s'en aperçoive. Elle n'avait pas regardé du bon côté. Clotilde s'attendait à affronter une ado rebelle, celle qu'elle avait été. Elle s'y était préparée en ne laissant faner aucune de ses valeurs, aucun de ses rêves, en restant la même. Tout faux! Elle se retrouvait aujourd'hui face à une ado sage et moderne qui la regardait comme une vieille chose démodée avec ses idéaux d'un autre âge. Aujourd'hui, la maman rigolote au mieux l'indifférait, au pire lui faisait honte. Valou avait déjà attrapé un sac à main à franges émeraudes assorti à sa jupe et attendait devant la Passat. Frank était déjà assis au volant. « T'es prête, maman ?» Pas de réponse. Une voix d'ado excédée, habitué, excédé quand même. Maman, on y va ! Clotilde ressortit du bungalow. Frank, tu as pris mes papiers ?
Pas touché.
Ils ne sont pas dans le coffre.
Pas touché, répéta Frank. Tu es certaine que tu ne les as pas rangés ailleurs ?
Ok, pensa Clotilde. Je suis le vilain petit canard sans cervelle de la famille, mais je ne suis pas encore complètement déconnectée.
Oui !
Clotilde se revoyait très précisément ranger son portefeuille dans le petit coffre-fort en fonte incrusté dans le placard de l'entrée, avant d'aller prendre sa douche. Frank avait relevé ses lunettes de soleil sur son front, tapotait nerveusement sur le volant, tout juste s'il n'appuyait pas frénétiquement sur le klaxon.
« S'ils n'y sont pas, asséna-t-il, c'est forcément que tu... »« Je les ai rangés dans ce foutu coffre hier soir et je ne l'ai pas ouvert depuis !»
Dans un élan d'énervement, Clotilde se retourna, hissa sa valise sur le lit et éparpilla les affaires. Rien. Elle ouvrit les tiroirs, passa sa main sur les étagères les plus hautes glissa les yeux sous le lit, les chaises et les meubles. Rien. Rien. Rien dans le coffre de toit. Rien dans la boîte à gants. Franck et Valou se taisaient maintenant. Clotilde retourna au coffre.
« Je les avais mis dans cette putain de boîte de conserve inviolable. Quelqu'un les a pris !»«
Écoute, Clo, il y a une clé, un code, et nous seuls... »«
Je sais, je sais, je sais !»
Clotilde n'aimait pas le sourire de Cherbonne et Spinello. Elle ne l'avait jamais aimé. Elle se souvenait qu'elle détestait déjà Cherbonne et quand il était enfant, ado, à vouloir diriger leur bande au prétexte que son père était le directeur du camping. Menteur, crâneur, calculateur. Quelques années plus tard, avec les pleins pouvoirs, 80 hectares ombragés avec vue sur mer à gérer, cela donnait quelque chose comme obséquieux, prétentieux, vicieux. Tout le contraire de Basile, son père.
« Je suis désolée, Clotilde !» se justifiait Cherbonne. « Je n'ai pas encore eu le temps de venir te voir. Il faudra qu'on trouve un moment pour... »
Elle coupa court aux intentions d'apéritif, d'hommages larmoyants à ses parents et d'évocations de souvenirs vieux de 27 ans, en expliquant la disparition de son portefeuille qui, pour elle, ne pouvait s'expliquer que par un vol. Cherbonne fronça ses larges sourcils noirs. Emmerdé, c'était déjà ça. Il attrapa un trousseau de clés et, en sortant de l'accueil du camping, et là, un grand type qui arrosait le parterre de fleurs.
« Orsou, tu viens avec moi !»
Cherbonne accompagna son ordre d'un geste de la main, doigt pointé vers l'allée, comme on le fait pour marquer son autorité sur un animal pourtant obéissant. Un geste de petit chef. L'autre ne broncha pas et le suivit. Clotilde eut un mouvement de recul lorsqu'il se retourna. Orsou mesurait plus de 1,90 m. Sa large barbe mal taillée et d'épais et longs cheveux frisés lui dévoraient le visage, mais pas assez pour dissimuler une infirmité sur tout le côté gauche. Un œil fixe, une joue atrophiée, presque creuse, une peau flasque du menton au cou, une épaule tordue, un bras qui se balançait le long de son corps comme une manche vide à laquelle on aurait cousu un gant de plastique rose, une jambe raide. Inexplicablement, Clotilde fut davantage troublée qu'effrayée. Elle prit d'abord sa réaction d'empathie envers ce géant handicapé pour une forme de pitié, une déformation professionnelle peut-être, mais autre chose la troublait. Un sentiment qu'elle ne parvenait pas à identifier. Alors qu'Orsou les précédait de 3 mètres, Cherbonne glissa à l'oreille de Clotilde.
« Je ne pense pas que tu puisses te souvenir de lui.
Orsou n'avait que 3 mois lors de ce maudit mois d'août. Il n'a pas eu de chance depuis. On l'a gardé, c'est comme ça ici. On n'abandonne pas les chèvres à 3 pattes. Aux œufs proctes, il s'occupe un peu de tout, on le surnomme Hagrid. C'est plus gentil que méchant. »
Tout dérangeait Clotilde dans la confidence de Cherbonne. Le tutoiement, alors qu'elle ne l'avait pas revu depuis 27 ans. Parler d'Orsou comme d'un chien qu'on recueille. Cet air de pape bienveillant, alors que Clotilde n'arrivait pas à se défaire de l'image du petit con persécutant les lézards, les grenouilles et toutes les autres bêtes innocentes passant entre ses doigts de tortionnaires boutonneux. Ils furent bientôt 4 à se pencher sur le minuscule coffre du bungalow. Seule Valou s'était assise sur une chaise, écouteurs dans les oreilles, et se peignait les ongles des pieds. Cherbonne ne se gênait pas pour lui reluquer les cuisses. « Vicieux, obséquieux, prétentieux », corrigea Clotilde dans sa tête. Elle avait le bon tiercé, mais dans le désordre. Orsou, son immense carcasse repliée devant le cube d'acier, essayait des clés de sa seule main valide, observait la serrure, vérifiait le pêne, la gâche, les cylindres. Cherbonne et contrôlait par-dessus son épaule.
« Désolée, Clotilde !» finit par trancher le directeur du camping. « Il n'y a aucune trace de forçage. Tu es vraiment certaine que ton portefeuille se trouvait à l'intérieur ?» Le cerveau de Clotilde bouillonnait. Il s'était donné le mot. Franck et Cherbonne, son homme et le type qui la dégoûtait le plus au monde. Clotilde se contenta de hocher la tête. Cherbonne médita.
« Il y avait de l'argent ?»
« Un peu.
Votre fille avait le code ?»«
Direct aussi, Cherbonne. » À côté de lui, Franck était diplomate. « Oui, mais... » Clotilde allait protester, mais Valou derrière eux s'était redressé.
« Si j'avais voulu voler du fric à mes parents, c'est le portefeuille de papa que j'aurais piqué. »
Cherbonne éclata de rire.
Bonne réponse, mademoiselle. On va considérer que c'est innocente.
Clotilde détesta plus que tout le sourire complice que Valou échangea avec le patron du camping. Franck, dans leur dos, semblait simplement énervé.
Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Puisque ma femme vous dit que ce portefeuille était dans ce foutu coffre.
Merci, Franck.
Cherbonne haussa les épaules.
D'une façon ou d'une autre, si vous n'avez plus vos papiers, vous devrez aller à la gendarmerie. À partir de là, Clotilde, tu peux porter plainte si tu veux.
Il se fendit d'un sourire ambigu et ajouta.
Ne t'attends pas à retrouver Cesareu à la gendarmerie de Calvi. Ton vieux copain a pris sa retraite depuis pas mal d'années. Je ne sais pas sur qui tu vas tomber. Les flics, maintenant, ils font 3 ans ici avant de repartir sur le continent.
Hagrid observait toujours le coffre, s'acharnait, vérifiait chaque mécanisme de la serrure, ne semblait pas comprendre. Clotilde le remercia intérieurement de ne pas se contenter des apparences. Elle était persuadée d'une chose. Ce portefeuille était rangé là hier. Quelqu'un l'avait pris. Pourquoi ? Qui ? Quelqu'un qui possédait le code ou la clé de ce coffre.